L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste, dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. L'Institut Montparnasse a entamé depuis quelques mois une réflexion sur la démocratie renouvelée dans les organisations de l'ESS. Dans ce 15e épisode, l'Institut Montparnasse a souhaité donner la parole à Michel Guillaume Hoffnung. Michel Guillaume Hoffnung est professeur émérite des facultés de droit, directrice de l'Institut de médiation Guillaume Hoffnung et présidente d'honneur de l'Union professionnelle des médiateurs. Elle est par ailleurs auteure du Que sais-je, la médiation, qui en est à sa 8e édition, traduit en portugais, publié au Brésil et traduction en arabe à paraître au Liban. Michel Guillaume Hoffnung, vous êtes bien une pionnière de la médiation qui a émergé au début des années 80. De quel besoin ou de quel constat est-elle née?
Elle est née d'un besoin qui était déjà criant dans les années 80. Le constat que nous étions dans une société paradoxale où, malgré la multiplication des moyens techniques de communication, le manque de communication interhumaine ou entre les humains et les institutions était déjà très, très douloureux. Et la figure de Proust du mouvement dont est sortie la médiation contemporaine en France, qui était donc droits de l'homme et solidarité, la figure de Proust de Jean-François Six avait écrit un ouvrage, Le guide des solitudes, dont la phrase que je vais vous lire donne bien l'essence de ce besoin de médiation. Et on dirait que plus il y a de réseaux de communication, plus il y a de solitude. Son guide des solitudes, on pourrait publier dans les années 80, on pourrait le reprendre aujourd'hui. C'est le catalogue des souffrances qui ont pu engendrer le mouvement des Gilets jaunes, les mouvements de banlieue, c'est-à-dire au fond des incompréhensions croisées. Et notre ambition principale au sein de Droits de l'Homme et Solidarité, dont j'ai fait partie, c'était de faire des brèches dans les murs d'incompréhension et de créer des passerelles entre les composantes de la société, que ce soit des composantes individuelles ou institutionnelles.
Avec le recul de ces 40 années, quels sont les ingrédients pour qu'elle fonctionne bien, pour qu'elle puisse se développer, cette médiation?
Les ingrédients résultent, au fond, de sa définition. La définition de la médiation que je me permets de vous donner, je me permets de le faire parce que, bien sûr, j'en suis l'auteur, mais elle a bénéficié d'une certaine reconnaissance. La médiation, c'est un processus de communication éthique et qui repose sur la liberté et la responsabilité des personnes concernées. Donc, le premier ingrédient dont elle a besoin, c'est un climat de liberté. On ne peut pas venir en médiation sur injonction. Le deuxième ingrédient, c'est l'absence de pouvoir du médiateur qui va permettre de donner de la puissance au processus. Puisque le médiateur n'a pas de pouvoir, il va respecter la liberté des personnes qui viennent en médiation et il va stimuler leur responsabilité. Ça va ensemble.
Est-ce que les règles du jeu sont bien comprises lorsque les personnes vont enclencher, je dirais, ce processus? Quand on leur explique, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de méfiance de leur part?
Quand je commence une médiation, j'explique aux personnes que notre première rencontre est une rencontre au cours de laquelle ils vont décider s'ils souhaitent entreprendre cette médiation. Et puis, aussi, si ils ont envie de l'entreprendre avec moi. Donc, ils ont double liberté. Ils peuvent, une fois que j'ai présenté ce qu'est la médiation, ce qu'elle permet de faire, de décider que ça correspond bien à leurs besoins. Autrement dit, je fais une pédagogie, une double pédagogie de la médiation, où je leur explique ce qu'elle est et que je leur explique aussi que c'est eux qui ont la puissance de faire réussir ce processus de médiation. Je leur explique que la médiation, c'est un accouchement. Alors, je n'utilise pas toujours le terme prétentieux de maïeutique, mais en gros, c'est ça. Le médiateur accouche les médiés. Il procède à deux accouchements. D'abord, il les accouche de ce qu'ils ont sur le cœur, de ce qu'ils ont dans le ventre. Ça vous est peut-être arrivé quand vous étiez face à quelqu'un de dire mais accouche. Une fois qu'ils ont procédé à ce premier accouchement, ça leur libère le cerveau et là, ils sont mûrs pour le deuxième accouchement. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir accoucher de leur solution, les leurs, librement, de manière responsable, grâce à l'absence de pouvoir du médiateur, mais qui va restituer dans toute sa puissance le processus de médiation, cette maïeutique, ce processus de communication éthique. C'est ça l'essence de ma définition. La médiation, c'est un processus de communication éthique.
Alors, vous utilisez des mots qui ont le vent en poupe, si je puis dire, c'est-à-dire que de façon sous-jacente, on entend neutralité, ou de façon très exprimée d'ailleurs, horizontalité. Est-ce que ces mots-là, cette ambiance-là, ce contexte que vous proposez, n'est pas facilité aujourd'hui par effectivement ce besoin de moins de verticalité, de moins de propos descendants, de moins de pouvoir tout simplement, qu'on soit dans les institutions ou même dans les partis politiques ou dans les entreprises?
J'adhère tout à fait à ce que vous dites. Le médiateur, finalement, il apporte à une société, que ce soit la petite société de base qu'est la famille, que ce soit le quartier, la ville, le village ou la nation, il apporte une hormone de confiance. Et quand j'enseigne la médiation, je demande toujours aux personnes qui viennent se former quelle est la substance la plus rare au monde ? Et les gens, assez rapidement, répondent « l'eau ». Et je leur dis « oui, vous avez raison. L'eau, c'est une des substances les plus rares au monde. Mais il y en a une qui est aussi rare, c'est la confiance. L'eau, elle est nécessaire à la vie biologique. La confiance, elle est nécessaire à la vie sociale. » Et là, vous venez de diagnostiquer que aujourd'hui, dans la mesure où la confiance qui ne peut pas se décréter du haut, doit retrouver, grâce au processus de médiation, un élément qui va permettre de refaire société. Et c'est en cela qu'il me semble que la médiation contemporaine, qui ne repose pas sur les chefs sociaux masculins. Je suis toujours très, très désolée quand j'entends dire « la médiation a toujours existé ». Non, il y a eu des modes traditionnels, mais nous, quand on a été les pionniers de la médiation contemporaine, c'était sur la base d'un surgissement de la société civile dans la liberté, la créativité pour rénover la démocratie, pour, comme je vous l'ai dit, faire des brèches dans les murs d'incompréhension et créer des passerelles. Donc voilà, la médiation, c'est une hormone de confiance et les médiateurs sont les humbles tisserands du tissu social. Et on est en plein dans le diagnostic que vous venez de dresser. Mais le besoin est tel que peut-être on acceptera de diffuser l'esprit de médiation dans son authenticité et non plus dans cette récupération qui a été opérée par les institutions qui ont fait de la médiation un mode alternatif de règlement des conflits, d'ailleurs faiblement alternatif, puisque on retrouve dans ces modes des modes alternatifs le même vocabulaire que dans le vocabulaire du procès, les parties, la procédure alternative, les délais pour agir, la saisine du médiateur, la recevabilité de la demande de médiation.
Et là, on est plus dans un processus de conciliation, en fait. C'est à distinguer, je dirais, de la médiation selon la définition que vous en avez faite.
J'irais même jusqu'à, si vous le permettez, corriger le terme que vous avez utilisé. Vous avez parlé de processus de conciliation. J'ai le plus grand respect pour la conciliation, j'ai le plus grand respect pour les conciliateurs, mais la conciliation n'est pas nécessairement un processus. Elle peut être un élément de la procédure. Dans notre code, l'article 21 du code de procédure civile dit « il entre dans la mission du juge de concilier ». La conciliation est souvent l'étape obligatoire d'avant procès.
Nous avons assez longuement parlé de ce qu'était la médiation. Nous l'avons opposée d'une certaine façon à la conciliation. Est-ce que vous voulez ajouter un point, une précision, avant que nous ne passions à un autre sujet ?
Merci de m'en donner l'occasion. La différence principale entre la médiation et la conciliation, c'est que la conciliation se définit comme l'accord amiable. Elle peut donc aussi se définir, et c'est ce que complètent les ouvrages de procédure, comme le moyen de parvenir à l'accord amiable. Ça veut donc dire que la conciliation n'intervient que quand il y a désaccord, voire conflit. Vous constaterez aussi que dans la définition de la conciliation, rien ne rend nécessaire l'intervention d'une personne autre que les parties. Et là, je vais renouer avec l'implacable précision des définitions de géométrie que nous avons connues quand nous étions dans le primaire. Pour qu'un triangle soit isocèle, il faut et il suffit qu'il ait deux côtés égaux. Pour qu'il y ait conciliation, il faut et il suffit qu'il y ait accord amiable. Ça veut donc dire que quand quelqu'un intervient dans la conciliation, quelqu'un autre que les parties intervient dans une conciliation, il peut être dans ce cas utile, mais il n'est pas nécessaire. Alors que le médiateur fait partie de la définition de la médiation. Il n'y a pas de médiation sans tiers. Et là, je vais me permettre de faire mon petit Raymond DeVos avec des jeux de mots, sauf que je n'ai pas le talent et la drôlerie de Raymond DeVos. Tout troisième n'est pas un tiers. Quand le médiateur est nourri, logé, blanchi par l'institution avec laquelle vous tentez la conciliation, c'est un troisième, mais il n'est pas un tiers. Il est un élément qui peut avoir plus ou moins d'indépendance par rapport à l'autre partie, mais il n'est pas vraiment un tiers. Tout troisième n'est pas un tiers. Là, dans la définition de la médiation, l'extériorité, l'absence de pouvoir, l'impartialité et l'indépendance du médiateur sont des piliers de la définition de la médiation. Et là, on a vraiment un critère de distinction très fiable de la médiation. Je souffre beaucoup quand j'entends dire que la médiation est un concept flou. C'est tout à fait faux. La médiation est un concept rigoureux. En revanche, elle pâtit d'un flou terminologique qui vient de lois qui définissent la médiation. Et là, il y a de quoi frémir, en commençant par tout processus et qui termine par quelle que soit la dénomination qu'on lui donne. Et notre droit est bien malade de ce que j'appelle la DTLA. J'ai inventé le nom, mais la maladie est bien réelle. Je suis partie de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Eh bien, la DTLA, c'est la dégénérescence terminologique liée à l'anomie qui fait que le patient qui en est atteint, en l'occurrence le législateur européen, le législateur français, que le patient qui en est atteint est ne peut plus nommer. C'est-à-dire, vous lui montrez une fourchette, il peut très bien vous dire, ben, c'est une cuillère. Eh bien, là, quand vous avez des textes qui diffusent la médiation en ne sachant pas la définir, puisqu'ils en donnent la preuve, en terminant leur pseudo-définition par quelle que soit la dénomination qu'on lui donne, on a bien la preuve que notre société, en son sommet, est malade de DTLA. Et c'est pour ça que la responsabilité de préserver la médiation, elle se trouve dans le berceau qui l'a fait naître, la société civile, et on retrouve cette horizontalité que vous avez soulignée tout à l'heure.
Alors, je crois qu'on maintenant, avec tous les éléments que vous nous avez donnés, on comprend bien ce qu'est la médiation. Je vous en remercie. J'aimerais maintenant que vous me parliez de la médiation dans le cadre de la prévention. Puisque vous l'avez écrit, la médiation solutionne, mais elle prévient aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point-là? Comment peut-elle prévenir?
Eh bien, très souvent, elle prévient le conflit dans la mesure où elle permet aux personnes qui étaient dans une posture de méfiance ou de méconnaissance de nouer ou de renouer un dialogue confiant. Autrement dit, la médiation peut non seulement régler le conflit, mais éviter qu'il advienne, tout simplement parce que on se parle. Je vais vous donner un exemple qui est terrible, en ce sens qu'il ravive chez moi un souvenir épouvantable, mais qu'il illustre bien ce qu'est la médiation. Une de mes anciennes élèves en médiation, j'ai formé beaucoup de médiatrices sociales interculturelles, me téléphone un jour en me disant « Michel, il faut que vous veniez parce que là, il y a une situation terrible ». De quoi s'agissait-il ? Il s'agissait d'une petite fille qui était arrivée en France dans sa famille d'origine africaine. Et cette petite fille avait développé une maladie grave. Et le médecin de famille qui soignait la petite fille, un jour, dit « Écoutez, il faudrait conduire la petite à l'hôpital ». Quand la petite est arrivée à l'hôpital, il est certain que le premier jour, le deuxième jour, elle allait mieux, tout simplement parce qu'elle ne partageait plus l'endroit où elle dormait avec 4 ou 5 enfants, qu'elle était sédatée, qu'elle était perfusée, donc elle allait mieux. Alors les parents se sont dit, c'est formidable, elle vient à l'hôpital, elle est guérie. Et puis le troisième jour, la maman arrive pour rendre visite à sa fille. Elle voit une infirmière qui sort la tête baissée et qui, voyant la maman, sursaute et lui dit « Madame, c'est terrible ce que je vais vous annoncer, la petite est morte ». Alors la maman s'est mise à hurler, à traiter l'infirmière d'assassin. Tout l'étage était rempli de ces cris de douleur et d'accusations. Quand mon élève, qui était la cousine de cette dame, est arrivé, tout le monde était tétanisé. Autrement dit, on était dans une situation où la famille de la petite morte était dans la chambre de la petite morte, où le personnel de l'étage, qui était en souffrance professionnelle, n'osait plus sortir du local, vous savez, l'espèce d'aquarium qu'on trouve à l'étage. Et donc, quand je suis arrivée, mon ancienne élève a dit « Cette dame, elle n'est pas de l'hôpital. C'est une médiatrice, elle n'est pas de l'hôpital. » Et donc, je suis allée parler avec les parents de la petite. Alors là, c'était épouvantable. Et puis, au fond, j'ai pu renouer la chronologie. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé qu'aucun mot n'avait été mis sur la situation. C'est-à-dire que quand le médecin de famille avait envoyé la petite à l'hôpital, c'était pour qu'elle meure dans de meilleures conditions. Mais pour un médecin, c'est un peu difficile, quand je dis un peu, vous voyez l'ironie que j'y mets, de dire à des parents, ben écoutez, on va envoyer votre petite pour qu'elle meure mieux à l'hôpital. Quand les hospitaliers ont reçu la petite, ils pensaient que les parents savaient. Quand j'ai demandé aux hospitaliers ce qu'ils savaient, ce qu'ils ne savaient pas, ce qui avait été dit, ce qui n'avait pas été dit, eh bien, on s'est rendu compte qu'en réalité, on n'avait jamais mis de mots sur la situation. Donc là, ici, une fois que, parce que j'étais extérieure, parce que j'arrivais sans arrogance, et parce que j'arrivais sans pouvoir, et quand j'ai permis de renouer le fil du dialogue, on s'est rendu compte que il n'y avait pas de conflit. Il n'y avait pas de conflit, il n'y avait juste pas eu de dialogue.
Il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas eu de dialogue, et vous êtes arrivé avant que les choses ne s'enquistent. On était plutôt, pour renouer avec ma question, sur une action de prévention,
oui,
finalement.
Oui.
Très bien. Alors, on a compris le champ applicatif, si je puis dire les choses de cette façon-là, dans ce cadre-là, auprès d'une famille. Mais la médiation, c'est partout, c'est tout le temps, c'est parfois aussi dans les institutions. Est-ce que vous avez le sentiment, notamment, que dans les institutions relevant de l'économie sociale et solidaire, on se saisit bien de cet outil-là, de cette façon de penser, de poser les choses?
Je pense qu'on pourrait s'en saisir plus.
Pourtant, on est dans des univers qui sont plutôt ouverts à la parole, à la circulation de la parole et à la prise en compte de la pensée
bien
de l'autre.
Bien sûr, c'est pour ça que je place beaucoup d'espoir sur le mot « solidaire ». Rappelez-vous, un des berceaux de naissance de la médiation, je parle pour la France, ça a été « droit de l'homme » et « solidarité ». Donc, je dis que l'économie sociale et solidaire pourrait faire mieux avec la médiation et qu'elle offre à la médiation un vrai berceau. Autrement dit, là, il y aurait un enrichissement mutuel. Parce que dans les établissements d'économie sociale et solidaire, on n'est pas aiguillonné par le profit à tout prix. On n'est pas dans l'entreprise de marchandisation. Et je pense que le verrouillage de la parole qui a conduit au scandale que l'on découvre, alors qu'on savait que ça existait depuis longtemps, qu'on découvre dans certains EHPAD, pourrait, grâce à la mise en place de vrais processus de médiation dans les lieux qui fonctionne sur le principe de l'économie sociale et solidaire, là on pourrait vraiment faire fonctionner la médiation dans ses quatre fonctions. Créer du lien, recréer du lien, ce faisant prévenir le conflit, et puis quand le conflit survient, le régler d'une manière originale qui n'est pas la conciliation, qui n'est pas la gestion informatisée par des plateformes de règlement, de réclamation. Hein, c'est bien le mot réclamation qui est utilisé. Il y aurait un enrichissement mutuel. La médiation trouverait son berceau d'expression. Et puis, l'économie sociale et solidaire pourrait trouver le signal que nous, on fait autrement.
Qu'est-ce qui fait que cette médiation ne trouve pas un terrain de jeu aussi favorable qu'elle le mériterait ?
Comme vous l'avez rappelé, je suis à la fois une des pionnières des pratiques de médiation dans le cadre de droits de l'homme et solidarité, mais je suis aussi une universitaire. C'est-à-dire que quand j'ai écrit le Que sais-je en 1995, Que sais-je qui faisait suite à l'ouvrage fondateur de Jean-François Six, hein, Droits de l'homme et solidarité, c'est Jean-François Six et puis ce petit noyau de militants dont avec Régine Langendorf, qui était une psychanalyste, je faisais aussi partie. En 1995, sa première édition, il faisait suite à l'ouvrage de Jean-François Six, qui est l'ouvrage fondateur. Qui veut comprendre ce qu'est la médiation contemporaine doit lire l'ouvrage de Jean-François Six, paru au Seuil en 1990, « Le temps des médiateurs ». Eh bien, nous faisions partie d'un des berceaux de la médiation. De même que, à la même époque, des femmes issues de l'immigration, femmes inter-associations inter-services migrants, celles qu'on a appelées les médiatrices sociales interculturelles, les femmes relais, au même moment que nous connaissions pas, mais on faisait la même chose. Donc il y a ce berceau surgi de la société civile avec le même objectif de créer du dialogue, ce que j'ai appelé les humbles tisserands de l'intercompréhension. Mais il y a eu le télescopage d'un autre courant qui a pris le nom de médiation et qui n'était pas autre chose que la francisation de l'alternative dispute resolution. Et je pense que les sociétés européennes ont une délectation masochiste à ne pas avoir conscience de ce que la vieille Europe peut produire. Et il suffit qu'on leur refourgue, pardonnez-moi l'expression vulgaire, mais je tiens à la maintenir, qu'on leur refourgue avec un emballage « made in USA » ce que ces vieilles sociétés européennes avaient mis sur pied il y a des siècles. Quand on regarde bien ce qu'est l'alternative « dispute resolution » que nous avons traduit en mode alternatif de règlement des conflits. Ça existait déjà au XVIe siècle. Les Hollandais avaient déjà mis ça sur pied. Les Vénitiens avaient déjà mis ça sur pied. Voltaire en parle. C'est l'idée qu'un homme raisonnable, avant d'aller au procès, doit essayer de trouver une solution amiable. Donc, il y a eu le télescopage de cette alternative dispute resolution qui a été traduite en France par un mot valise médiation et qui arrivait à un moment où on a voulu désengorger la justice. Le mot est noble, hein, désengorger. Et donc là, on a transformé la médiation en un produit chimique miracle, desktop ou silitbang, pour désengorger les tuyaux de la justice. Et naturellement, comme c'était plus simple, comme c'était plus simpliste à comprendre, ça s'est mieux diffusé. Et puis qui plus est, le vecteur de diffusion a été l'appareil producteur de normes. Hein, la première loi qui a utilisé le mot médiation à tort, c'est la loi du 4 janvier 1993, instituant la médiation pénale, là où les pionniers de terrain, un magistrat comme Georges Appape, utilisaient le mot « conciliation pénale ». Et donc, il y a eu un engouement pour le mot, ça sonnait bien, et souvent, nous, les Occidentaux, on stigmatise les comportements magiques. Mais ça, c'est un comportement magique. On s'est saisi d'un mot qui tient lieu d'innovation pour présenter comme innovant des choses qu'on avait déjà inventées il y a des siècles et pour passer à côté d'une véritable innovation sociale, la médiation contemporaine, dont je redis qu'elle n'est pas la rénovation des modes ancestraux, parce que ces modes ancestraux de régulation, la palabre ou l'intervention du curé, reposaient sur des autorités masculines, autrement dit sur la verticalité. Et il n'est pas inutile de souligner que les grandes pionnières aussi de cette médiation sociale dont nous avons un impérieux besoin étaient des femmes, hein, les femmes relais.
Donc, place aux femmes pour cette médiation. On se souhaite beaucoup de médiatrices. Donc, remettre de l'éclairage sur ce mot de médiation et sur ce qu'il sous-tend, surtout pour qu'on comprenne bien son esprit et son mode d'application. Juste en quelques mots, pour conclure, quels sont les domaines dans lesquels la médiation peut opérer ?
Eh bien, vous avez remarqué que je parle de médiation. Je ne parle pas de médiation judiciaire, je ne parle pas de médiation commerciale, je ne parle pas de médiation sanitaire, parce que l'adjectif qualificatif accolé au mot médiation non seulement ne précise pas ce qu'est la médiation, mais au contraire la déforme. En français tout basique, l'adjectif qualificatif est un accessoire du substantif. Le substantif, il donne la substance. Regardez comme cette langue est belle. Est-ce qu'un adjectif qualificatif qui est un accessoire peut changer la substance ? Non. Si je me teins les cheveux, ça ne change pas mon ADN. Je passe de femme blonde à femme brune. Eh bien, cette précision pour répondre à votre question. La médiation, dans son unité fondamentale, à condition qu'on en respecte les deux piliers, le processus de communication éthique et le médiateur sans pouvoir extérieur, indépendant et impartial, peut intervenir dans tous les secteurs de la société, de la plus petite cellule, la famille, jusqu'à la société internationale. Et là, il y aurait beaucoup à faire.
Bien, mais en tout cas, merci pour cette grande ouverture, finalement.
Merci
à vous. Que beaucoup sauront s'en saisir. Merci infiniment, Michel Guillaume Hoffnung. J'invite les auditeurs qui souhaiteraient approfondir le sujet et mieux vous connaître à se rendre sur votre site www.mediation-imgh.com. Je rappelle que vous avez écrit dans la collection Que sais-je, la médiation, qu'il s'agit de la 8e édition qui est parue en 2020. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement des organisations relevant de l'ESS. Nous espérons que la médiation puisse faire son œuvre dans de nombreuses organisations. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts.